Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1, toujours avec Ben H, Laurent Barra, Régis Maillot.
Oui, toujours là.
Et notre premier invité ce matin qui est un écrivain à succès, 33 romans, 8 essais, 6 pièces de théâtre, 12 scénarios, 4 bandes dessinées. Ce boulimique de travail, lauréat du prix Goncourt en 1994 pour son roman Un aller simple, qui fut un aller simple pour le succès, est également un grand curieux de tout pour le plus grand bonheur de ses lecteurs toujours plus nombreux. Grand défenseur de la cause animale dans son nouveau roman Le pouvoir des animaux, paru le 6 mai aux éditions Albin Michel. Il nous explique comment ce sont les espèces que nous malmenons qui peuvent pourtant nous sauver. Je suis ravie ce matin de recevoir Didier Van Kovelaert. Bonjour Didier Van Kovelaert.
Bonjour.
Alors vous venez nous parler du livre Le pouvoir des animaux, dans lequel vous défendez le fait que les animaux peuvent sauver le monde. Et puis en même temps, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme.
Oui,
scientifiques
entre
tous les deux
chercheurs obsédés par deux animaux.
Très différents, parce qu'une qui est obsédée par un animal microscopique.
Un millimètre d'espoir, et l'autre c'est 6 tonnes de rêve.
C'est le mammouth.
C'est le mammouth. Et on est entre une espèce, le tardigrade, quasiment
immortel.
Qui existe vraiment. Oui, qui est pas facile à voir à l'œil nu.
Un millimètre. Il faut avoir une bonne
vue. Et puis une fois qu'on l'a vu et agrandi, elle paye pas de mine. C'est une espèce dont le physique ressemble à et c'est entre le sac d'aspirateur et la saucisse cocktail, si vous voulez.
Et vous la faites parler à la
Laurent,
première personne.
Parle.
Et vous la faites parler à la première personne, cet animal.
Oui, parce que le but c'était justement de montrer l'être humain à travers le regard animal, deux regards animaux. L'un, cette espèce indestructible qui résiste à tout, le tardigrade.
Et c'est une protéine en fait, ça.
En fait, c'est une protéine qui lui permet de réparer son ADN toute seule. Et puis, quand les conditions extérieures ne seront pas optimales, de se lyophiliser, comme notre café soluble, de se déshydrater complètement et de se mettre en ce qu'on appelle la cryptobiose, c'est-à-dire l'arrêt des fonctions vitales.
Ça existe vraiment, ça?
Absolument. Et le tardigrade est entré dans ma vie il y a une vingtaine d'années. Un jour, j'ai lu un reportage sur qui racontait comment un glacionaute, un explorateur des glaces, qui descend au Groenland à 200 mètres, et 200 mètres, par la loi des strates, c'est 130 000 ans.
En arrière.
Et là, il fait un prélèvement, et puis ce prélèvement, il remonte dans sa tente chauffée, il attend que ça dégèle, et puis au milieu des bactéries inconnues, des poussières d'étoiles sorties de ses archives de la Terre, tout à coup, il voit un petit animal qui bouge les pattes et qui se met à marcher. Et en fait, le tardigrade, lorsque les conditions lui paraissent propices à sa survie, il absorbe l'humidité ambiante, il se réhydrate et il revient à la vie. Et tous les pouvoirs du tardigrade qui lui permettent de résister au zéro absolu, moins 273 degrés, à des températures extrêmes, 300, 400 degrés, au vide spatial. On a mis des tardigrades en orbite autour de la Terre et ils sont revenus en bon état.
Et donc ça permettrait de guérir plein de maladies comme le cancer.
On a découvert, en tout cas, de lutter contre les effets du cancer ou d'Alzheimer en réparant l'ADN. Les premiers essais sur l'homme ont lieu en ce moment. Tout ça paraît très prometteur.
Vous avez travaillé avec un vrai scientifique d'ailleurs pour écrire ce livre.
Non, moi j'essaie de me mettre dans la peau de mes personnages. Et là, Wendy, cette jeune biologiste qui est obsédée par le tardigrade, et j'essaie de comprendre d'une part ce qu'il y a dans sa tête et puis dans son cœur. Comment...
Alors elle est mariée à un homme à qui ça se passe pas trop bien en fait.
Si, c'est une très grande histoire d'amour. C'était son prof.
Ouais, mais il est plus vieux qu'elle.
De biologie,
souvent.
Il a plus l'air très performant, on a l'impression.
C'était Pygmalion, et puis c'est un grand génie qui a eu le prix Nobel pour cette découverte justement sur le tardigrade. Et puis là, il a l'Alzheimer. Donc évidemment, les recherches qu'elle mène sur
cet animal, pour le sauver.
C'est aussi pour sauver cette grande intelligence.
Oui, mais arrive Franck. Elle est attirée. Et à un moment, elle lui dit, alors on a deux choix.
Lui, c'est un plantigrade.
Non, elle lui dit, on a deux choix. Soit on va baiser dans ce labo 5 minutes et on n'en parle plus. C'est très romantique comme conception. Soit vous venez chez moi et vous découvrez mon univers.
Et vous saurez pourquoi il ne peut pas là se passer plus. Que faire avec une tentation d'amour qui vous tombe dessus? Une assurance. En plus, c'est un passionné... Comme elle, lui, il est passionné par le mammouth, cette espèce éteinte qu'il est sur le point de
déséteindre par
le
par
clonage.
Contre.
Lui, il est veuf. Ça ne veut pas dire qu'il est libre pour autant. Justement, c'est ça qu'elle sent aussi. Dans l'attirance mutuelle, lors d'un coup de foudre, les pôles de résistance, je crois, font partie des atomes crochus. C'est-à-dire sentir qu'une autre femme décédée vit toujours dans le cœur d'un homme quand
Comme un tardigrade.
Quand elle-même, Wendy, est toujours habitée par son amour pour cet homme à qui elle doit tout, même s'il s'est un peu remboursé au centuple. Voilà, je pense que les difficultés dans la passion sont des choses qui renforcent les passions. Et quand en plus il y a cette passion commune et cette rivalité scientifique entre tous les deux.
Oui, parce qu'à un moment ils sont en compétition dans un prix,
voilà,
pour avoir une bourse et leurs deux projets
là,
sont en compétition.
Voilà, c'est l'homme rat. Alors ça je l'ai inventé. L'Organisation Mondiale des Ressources Animales, cette fondation créée par une milliardaire russe plutôt mafieuse, c'est-à-dire elle a inventé le
système. Là vous avez tout inventé. Là.
Oui, elle a. Disons qu'elle a inventé le système de protection antivirus, antivirale, informatique le plus vendu au monde et naturellement ça lui permet d'être la reine des cyberattaques et donc elle a fait une fortune extraordinaire qu'elle consacre à la cause animale par excès un peu de misanthropie peut-être, mais en tout cas elle donne 100 millions de francs suisses chaque année à l'un des 12 projets animaliers qu'elle a choisi et Wendy et Frank se retrouvent en compétition.
Mais ça se finit bien, mais on ne va pas révéler.
Eh oui, advenir.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Didier Von Kovelhort qui nous explique que notre salut est dans les mammouths et les plantigrades.
Tardigrades.
Voilà. Et tout ça est expliqué dans son dernier roman, Le pouvoir des animaux, aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas, on revient.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben Hache, Laurent Barra, Régis Maillot et notre invité Didier Von Kovelhort veut nous parler de son dernier roman Le pouvoir des animaux aux éditions Albin Michel. Alors comme d'habitude, vous changez totalement d'univers à chaque roman, parce qu'il y a des écrivains, ils réécrivent toujours le même livre. Vous, à chaque fois, c'est complètement barré.
J'essaie par politesse pour mes lecteurs qui me font le plaisir d'être fidèles. J'essaie de les dépayser, oui. Il y a toujours mes obsessions, mes hantises, mais j'essaie justement de varier à chaque fois.
C'est quoi vos obsessions, Didier Von Kovelhort ?
C'est lutter contre le fatalisme, montrer que les histoires d'amour sont sans doute l'énergie la plus forte lorsqu'on ne s'enferme pas uniquement dans une histoire affective, mais que cette énergie développée, on la met au service de ce qui nous importe par ailleurs. Et puis la reconstruction, déjà je pars de personnages cabossés, en danger, en détresse, qui se reconstruisent grâce à leur rencontre, grâce à la force du rêve qui les anime à nouveau.
Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas s'enfermer dans une histoire affective, Didier Von Kovelhort ?
Ne pas s'enfermer uniquement en huis clos, dans une passion amoureuse qui pourrait se suffire à soi-même. Parce que bon, c'est très bien, on est heureux le temps que ça dure, mais l'énergie que donne l'amour, j'en parle à titre personnel, et je vois dans vos yeux que vous savez de quoi je parle, cette énergie-là, tout ce qu'on peut faire avec... C'est dommage d'en priver l'humanité, quoi.
On sent que vous êtes passionné par ça, Didier Von Kovelhort. C'est-à-dire que vous vibrez.
Moi, je vis, je me rends compte. Dire, c'est une...
Il paraît que quand vous écrivez vos livres, vous êtes habité, vous pouvez nager en écrivant le livre dans vos têtes.
Non, mais je peux travailler 12-15 heures par jour, mais pas tout le temps au bureau. Je nage, je fais du vélo, je cours.
Et vous faites attention à ne pas trop manger, parce que vous dites que la digestion vous empêche d'écrire.
Oui, c'est-à-dire en dehors de l'écriture, je mange, mais il faut gérer juste cette immense fatigue que déclenche la digestion.
Et quand vous écrivez, vous êtes habité. Et là, on sent que vous êtes encore habité par ce livre.
Je suis déjà habité par les animaux. Il y a tous ces autres animaux dont je parle dans ce concours de l'homme rat, de tous ces pouvoirs extraordinaires chez nos animaux domestiques. Le pouvoir des chiens. Détecteurs de cancer, de crises d'épilepsie, d'explosifs.
Et c'est important pour vous les animaux, Didier Von Kovelhort, vous-même vous avez beaucoup d'animaux ?
Disons que beaucoup d'animaux m'ont eu. En fait, j'ai jamais acheté un animal, mais des chiens errants, des chats abandonnés, une perruche évadée aussi, et ils sont dû se greffer chez moi. Et là, c'est intéressant parce qu'on se demande pourquoi moi, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont capté? Je suis pas le propriétaire, je suis pas. Je nourris, mais enfin, la nourriture, il y en a partout, quoi. Et là, c'est intéressant parce que vous essayez d'entrer dans la conscience de l'animal, comme je le fais dans le roman. Et pour comprendre qu'est-ce qui a pu l'attirer.
Vous vouliez rentrer à l'Académie française, on vous a refusé deux fois. Vous
non, c'est pas moi, c'était des pressions vraiment importantes affective de la part de grands personnages que j'admirais. Le premier, bah, c'est celui qui m'a donné mon premier prix pour mon premier livre, c'était Maurice Schumann.
D'accord.
Maurice Schumann, la voix de la France libre,
bah oui, c'est
à Londres.
C'est
et Schumann me donne le prix d'El Duca pour 20 ans et des poussières, donc j'avais 22 ans, et il fait un discours, ça se passait au Salon du Livre de Nice, et il fait un discours au passé, comme si j'étais mort. Alors j'adore ce genre de décalage,
oui.
Comme si on était à la pose de plaque sur mon immeuble, quoi. Et après, il dit, puissais-je être encore de ce monde quand vous vous présenterez à l'Académie ? Il m'a dit plusieurs fois, puis d'autres après... Félicien Marceau, Michel Déon. J'ai à un moment donné, ça, c'est mal poli de dire non ou de faire ouais, j'ai pas besoin de ça. Mais j'y suis allé, là, je vais vous dire, la raison profonde, Félicien Marceau, l'immense auteur de théâtre qui est venu voir ma première pièce. Déjà, c'était extraordinaire parce que l'œuvre de Marceau a révolutionné le théâtre. Et il vient voir ma pièce et on devient amis. On ne s'est pas quitté jusqu'à sa mort. Les romans de Marceau, d'une liberté, d'une imagination, d'une urgence, comme Crisis, merveilleux livre. Et Marceau, un jour, me téléphone et me dit, voilà, je lui dis que j'aimerais bien être encore vivant quand vous vous présenterez à l'Académie. Je sorte chez mon médecin, il vous conseille de ne pas trop attendre. Alors là, j'ai écrit ma lettre. Moi, je fonctionne comme ça, vous savez. C'est vraiment de l'affectif. C'est tellement merveilleux quand quelqu'un vous attend, a envie de vous envoyer ce genre de message, surtout avec ce canal d'humour que voilà. Et puis j'étais favori. Et puis c'est Weyerganz qui est arrivé en dernière minute et qui a pris ma place. Et puis après, c'est sur le fauteuil de Félicien Marceau que là, j'étais candidat. Et puis Claude Durand était candidat aussi. On a fait élection blanche, même nombre de voix. Donc voilà, mais
pourquoi ça a été lui alors si c'est le même nombre de voix?
Non, ça n'a pas été lui. Il n'y a pas eu d'élection. Une élection blanche, c'est que personne n'est élu parce qu'il n'y a pas de majorité.
Donc le fauteuil est toujours libre.
Suffisante. Il a été pris
non,
après.
Il a été, mais on n'a pas le droit
de se représenter
lorsqu'il y a une
fauteuil.
Élection blanche sur un fauteuil, de se représenter sur le même.
La prochaine fois, ce sera la bonne.
Mais oui. Puis quand on aime
je suis pas en état d'urgence affective comme je l'étais avant. Donc c'est vrai que je pense que il est plus urgent de s'occuper des animaux là que de l'Académie française.
Mais ça ne s'oppose pas. Quand on aime les mammouths, on peut aller à l'Académie.
Oui, mais le tardigrade non.
Merci Didier Van Coveler d'être passé nous voir. On rappelle votre roman. On apprend plein de choses. Le pouvoir des animaux aux éditions Albin Michel. Un roman d'amour, un roman scientifique, un roman d'anticipation, on peut dire.
D'espoir, d'énergie et...
Un roman qui fait du bien.
Je pense, j'espère.
Merci beaucoup Didier Van Coveler.